Aucun n'est enthousiaste vis-à-vis du nucléaire. Peu, d'ailleurs, trouvent que ce serait une bonne idée de construire de nouvelles centrales. Mais chez presque tous, par contre, il y a l'idée que, transitoirement au moins, on n'a pas vraiment le choix. Et que le nucléaire doit rester une part de notre mix énergétique pour les décennies qui viennent, pour des raisons de coût, pour réduire drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre, tout en préservant un volume d'énergie suffisant à notre confort de vie. Et puis, il y a tous ceux aussi qui ont bien du mal à se faire un avis.
J'avoue n'avoir aucun avis sur la question. On n'est pas trop au courant de tout
moi,
ça,
j'ai vraiment pas d'avis là.
Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée ou bien est-ce que ça vous fait peur?
Il faut avoir une vue globale de notre alimentation énergétique. Moi, je souhaiterais voir une documentation bien soignée sur le sujet, mais bon, voilà.
Alors justement, quelle part pour le nucléaire aujourd'hui, demain? Quelle marge de choix avons-nous? Quelles sont les pistes d'avenir aussi du secteur nucléaire? On va essayer d'y voir clair, vous fournir quelques clés pour vous forger votre opinion de citoyen sur un enjeu qui nous concerne absolument tous. Premier interlocuteur, Jean-Marc Jancovici. Ingénieur et conférencier français qui était de passage il y a quelques semaines de cela à la RTBF.
Enfin, Jean-Marc Jancovici engagé dans la lutte contre le réchauffement climatique tout en s'affichant comme fervent défenseur. C'est un peu de ce qu'on appelle des rockstars du climat et de l'énergie.
Jean-Marc Jancovici a considérablement gagné en notoriété ces dernières années, notamment suite à une bande dessinée qui a fait un véritable carton en librairie, Le Monde sans fin, où il démontre notre archidépendance à l'énergie fossile. Il parle d'ébriété énergétique dont il va falloir sortir, par de la sobriété d'abord et avant tout, mais aussi, selon lui, avec l'aide de l'énergie nucléaire. Alors, j'ai commencé justement par lui demander quelle place il donne au nucléaire dans notre nécessaire transition énergétique.
Ce que je crois, c'est que la part de civilisation industrielle qu'on arrivera à conserver, on n'arrivera pas à tout conserver dans un monde sans énergie fossile, loin s'en faut. On n'arrivera pas à conserver 1,2 milliard de voitures sur Terre, on n'arrivera pas à conserver la marine marchande qu'on a aujourd'hui, on n'arrivera pas à conserver la mondialisation qu'on a aujourd'hui, on n'arrivera pas à conserver l'activité minière qu'on a aujourd'hui, parce que faire des engins de mine sans pétrole, c'est compliqué, et faire de la métallurgie sans charbon, c'est compliqué. Donc on arrivera à faire quelques petites choses, beaucoup moins que ce qu'on fait aujourd'hui, et la part qu'on arrivera à préserver, donc la part de lunettes pour pas cher qu'on arrivera à continuer à faire, de chemises pour pas cher et de boîtes d'œufs pour pas cher dans les villes, dépendra notamment du fait qu'on recourt ou pas à l'énergie nucléaire. Voilà la manière dont je vois le nucléaire dans le panorama. Donc j'ai souvent tendance à dire, c'est un parachute ventral pour amortir la décrue des combustibles fossiles. Donc le nucléaire pour moi fait partie des marges de manœuvre qui permettent d'amortir le choc dans un monde qui va de gré ou de force devoir se passer de combustibles fossiles.
Voilà qui est clair, mais qui est aussi très contesté. Alors pour ce podcast, j'ai aussi longuement parlé avec un autre interlocuteur, en l'occurrence Luc Barbet.
Donc quel est le format qu'on commence en disant ?
Lui aussi est ingénieur industriel, et il a été au début des années 2000 le chef de cabinet d'Olivier Deleuze, secrétaire d'État fédéral écolo à l'énergie et père de la loi de sortie du nucléaire en Belgique. Donc, Luc Barbet, c'est un peu le technicien qui a pensé la loi de sortie, qui reste d'ailleurs d'application encore aujourd'hui chez nous. Et il ne croit pas du tout, lui, à la nécessité à l'avenir d'encore garder des centrales nucléaires et encore moins d'en construire de nouvelles.
L'énergie nucléaire, c'est pas une énergie d'avenir, pas du tout, et on n'en a pas besoin. Donc, en fait, la question on se pose même pas maintenant, après 70 ans, on voit les problèmes avec cette énergie. D'un point de vue sécurité, sûreté, décès nucléaire, le prix, c'est tellement cher. Et donc, c'est pas par hasard que la plupart des pays investissent beaucoup plus, jusqu'à 15 fois plus dans les énergies renouvelables que dans le nucléaire. Donc, en fait, le choix a été fait, je pense, et le débat est presque derrière nous.
Bon, en tant que journaliste, j'ai l'impression d'être confronté à cela depuis que je couvre ce dossier du nucléaire civil. Confronté à deux points de vue pratiquement irréconciliables et à la grande difficulté d'objectiver certaines données en n'étant pas moi-même ingénieur spécialisé dans ces questions. Alors, ce que je vous propose, c'est de parcourir ensemble et point par point les principaux arguments de ce sempiternel débat sur l'énergie nucléaire à l'aune des enjeux nouveaux que nous connaissons aujourd'hui. Premier argument très souvent mis en avant par les promoteurs du nucléaire, le fait qu'il s'agit d'une énergie très peu carbonée, tout en étant dense et pilotable, argument notamment mis en avant par Jean-Marc Jancovici.
Pour moi, le nucléaire, c'est quelque chose qui est décarboné, parce que la fission de l'uranium, c'est quelque chose qui n'émet pas de CO2, intrinsèquement, hein, casser un noyau d'uranium en deux, intrinsèquement, ça n'émet pas de CO2. C'est dense et pilotable, qui est une caractéristique que ça partage avec les énergies fossiles, alors que les énergies renouvelables sont globalement plutôt diffuses. Il faut des grandes surfaces de bois pour avoir beaucoup d'énergie, il faut faire souffler beaucoup de vent dans beaucoup de dispositifs de collecte pour avoir des grandes quantités d'énergie, le vent c'est diffus, et il faut des grandes quantités de surface exposées au rayonnement solaire pour avoir des grandes quantités d'énergie solaire. Donc les combustibles fossiles ont offert par rapport aux énergies renouvelables la possibilité de s'extraire des contraintes de temps. On pouvait consommer l'énergie quand on voulait et pas quand les événements extérieurs l'avaient décidé. Et d'espace, c'est-à-dire qu'on peut les consommer où on veut, indépendamment de leur lieu d'extraction. Parce que c'est des énergies qui se transportent facilement, en particulier la reine des énergies fossiles, qui est le pétrole, qui, liquide à température et pression ordinaire, se transporte et se déplace extrêmement facilement avec des déperditions d'énergie extrêmement faibles. Le nucléaire ressemble aux énergies fossiles, je le répète, parce qu'il est dense et pilotable. Et il ressemble aux énergies renouvelables parce qu'il est décarboné.
Et pour appuyer l'argument de la densité du nucléaire par rapport au caractère diffus des énergies renouvelables, Jean-Marc Jancovici ajoute ce petit calcul.
Il faut bien voir que si on regarde le simple dispositif de production, c'est-à-dire le bâtiment réacteur plus ses annexes versus des panneaux solaires, le nucléaire occupe, en France ou en Belgique, c'est à peu près la même latitude, 1000 fois moins d'espace au sol pour produire la même quantité d'électricité que le solaire. D'accord ? Donc on n'est pas en train de parler d'un rapport de 1 à 2. Or le sol, c'est précieux. On peut en faire autre chose, on peut en faire de la forêt, on peut en faire de la culture, on peut en faire de la biodiversité. Donc c'est quelque chose qui est important.
Je répète le chiffre. 1000 fois moins d'espace au sol pour la même quantité d'électricité. Dans sa bande dessinée, Jean-Marc Jancovici donne d'ailleurs un autre chiffre. Pour avoir l'équivalent d'un gigawatt de nucléaire, la puissance d'un réacteur environ chez nous, il faut installer 1000 hectares de panneaux photovoltaïques, soit, si vous voulez, un rectangle de 5 km de long sur 2 km de large. Alors ça paraît énorme, mais est-ce que ça l'est tant que ça? Si on compte que l'on utilise en moyenne 5 gigawatts de nucléaire en ce moment, en Belgique, avec nos centrales, il faudrait pour les remplacer toutes une surface de panneaux photovoltaïques de 5000 hectares, soit l'équivalent du territoire d'une commune comme celle de Huy, en province de Liège. Et je n'ai pas pris cette comparaison pour rien, puisque cette entité, la commune de Huy, c'est justement celle qui accueille aujourd'hui la centrale de Tihange. Alors c'est beaucoup, évidemment, hein, toute la surface d'une ville et d'une commune comme Huy, mais pour Luc Barbet, installer, non pas en un bloc, mais de manière diffuse sur tout le territoire, une telle surface de panneaux photovoltaïques, eh bien ce n'est pas insurmontable.
Si je vois dans ma commune, ou si je vois ici à Bruxelles, il y a encore plein de possibilités sur les toits, donc on peut encore mettre sur des milliers de toits des panneaux photovoltaïques. Deux, il y a encore de la place pour des éoliennes en Belgique. Peut-être pas beaucoup, selon certains, oui, non, etc. Mais il y a aussi la mer du Nord, où il y a de la place pour des centaines d'éoliennes du Nord, où la Belgique joue un rôle moteur et il y a de l'intérêt, pas uniquement dans le Moyen-Orient, mais aussi aux États-Unis, pour notre savoir-faire, pour notre expertise en matière de offshore, donc des éoliennes en mer du Nord, et puis il faut les connecter avec des câbles, et tout ça c'est de la technologie du pointe, ça c'est la technologie moderne.
Donc, pour Luc Barbet, il serait faux de penser qu'on doit absolument garder le nucléaire juste pour une question de place. Il faut cependant préciser ici un point important. Quand Jean-Marc Jancovici donne le chiffre de 1000 hectares de panneaux photovoltaïques à installer pour remplacer un réacteur nucléaire, il parle de puissance. Cela veut dire qu'il considère que si les deux installations tournent à plein à un moment donné, elles produiront le même volume d'électricité. Par contre, il reste le vrai problème de l'intermittence du solaire. Là où une centrale nucléaire peut fonctionner quand tout va bien à peu près 95% du temps, le photovoltaïque, lui, en Belgique, ne produit que 10% de ce qu'il pourrait produire dans une situation hypothétique où le soleil brillerait 24 heures sur 24. Et ça, ça fait évidemment une sacrée différence. Ceci dit, dans l'argumentaire de Jean-Marc Jancovici sur la balance des avantages et inconvénients du nucléaire d'une part et des énergies renouvelables de l'autre, il y a un autre argument que l'on entend, lui, nettement moins souvent.
Une des choses qu'il faut avoir en tête, c'est que les énergies renouvelables demandent, enfin les modernes, éolien et solaire, demandent des quantités de métal par kilowattheure produite qui sont beaucoup plus importantes que ce qu'on a pour le nucléaire, tout simplement parce qu'elles exploitent une source diffuse, et il faut de 10 à 50 fois plus de métal par kilowattheure produit quand on utilise du soleil ou du vent que quand on utilise du nucléaire. Et il va y avoir une barrière sur les métaux aussi, il faut bien voir ça. Rien ne garantit que dans un monde démondialisé, on va pouvoir continuer à avoir aussi facilement et pour aussi peu cher des éoliennes et des panneaux solaires en Belgique. Tout simplement parce qu'en Belgique, il n'y a pas de mine métallique, et il n'y a pas les combustibles fossiles pour travailler ces métaux. Donc c'est des enfants de la mondialisation, hein, les panneaux solaires et les éoliennes pour pas cher, comme le reste, hein, comme les fourchettes et les casseroles et les frigos pour pas cher, c'est exactement pareil.
Donc, pour l'ingénieur français, ce serait une erreur de transposer le coût et les possibilités associées aujourd'hui aux énergies renouvelables à un monde sans énergie fossile où beaucoup de paramètres vont changer. Mais manquera-t-on pour autant à coup sûr de métaux demain ? Eh bien ça, j'ai l'impression que c'est très difficile à anticiper. J'ai fait quelques recherches pour ce podcast et je suis notamment tombé sur un rapport de la Banque mondiale daté de 2017 qui évalue que le boom de l'éolien et du photovoltaïque un peu partout dans le monde pourrait multiplier par deux la demande en métaux sur notre planète. Ceci dit, certains travaux, comme une étude menée par la KU Leuven pour l'Association des producteurs de métaux, montrent aussi à quel point le potentiel du recyclage est important, pouvant compenser 40 à 75% des besoins en Europe à l'horizon 2050, en fonction des investissements et des obligations qui pourraient être décidées. Quid alors aussi de l'évolution de notre consommation de métaux par ailleurs dans la vie courante ? Quid de la demande énergétique pour la filière du recyclage et le bilan carbone de cette filière ? Il y a tellement de curseurs qui vont bouger un peu partout en même temps qu'il est très difficile de dire comment le marché et les ressources pourraient évoluer dans les années qui viennent. Du coup, le prix des technologies de renouvelables va-t-il continuer à décroître, comme c'est le cas aujourd'hui ? Ou bien est-ce qu'il va monter en flèche ? Bien malin, qui pourrait le dire aujourd'hui avec certitude. Par contre, les adversaires du nucléaire, eux, ont beau jeu de rappeler que le coût du nucléaire, lui, est en augmentation, en tout cas pour ce qui est de la construction de nouvelles centrales. Luc Barbet prend le cas d'une des rares nouvelles centrales nucléaires actuellement en construction en Europe, en l'occurrence celle de Flamanville, le long de la Manche, en Normandie.
Bon, qu'est-ce qu'on constate ? Budget 3 milliards d'euros, autour de 3 milliards d'euros. Maintenant, on est déjà autour d'un budget de 13 milliards, selon la Cour des comptes française, autour de 19 milliards. Donc, un dérapage budgétaire énorme, un gouffre financier. Ce n'est pas la première fois. L'histoire du nucléaire, c'est aussi l'histoire des dérapages budgétaires. Je pourrais donner des exemples belges aussi. Et puis, sur le timing était, on va le faire en 5 ans. Ben, maintenant, il y a déjà 11 ans de retard, quoi. Ça montre bien que dans le secteur nucléaire, les budgets ne sont jamais respectés. C'était la même chose avec la centrale nucléaire en Finlande. Et le timing non plus. Et donc une énergie qui, après 50 ans, ne sait pas nous dire ça va coûter X milliards d'euros et ce sera prêt à tel moment-là. Et tiens, c'est quoi ? Ça, c'est bizarre, quoi. En général, une technologie qui est utilisée, et on le voit dans les énergies renouvelables, ben ça devient moins cher parce qu'il y a des effets d'échelle, parce qu'on améliore la technologie, etc. Dans le nucléaire, c'est le contraire. Le prix des énergies renouvelables a diminué les 15 dernières années avec des dizaines de pourcentages. Photovoltaïque, en 12 ans, moins 90%. Le prix, le coût du nucléaire, et ça c'est bizarre, enfin, mais c'est comme ça, a augmenté de quelques dizaines de pourcentages. Donc un secteur, une technologie qui a 50 ans devient de plus en plus cher. Et donc ça c'est problématique évidemment. Je comprends bien que de plus en plus de pays qui disent que ben, non, on va pas investir dans un secteur qui, avec ses gouffres financiers, quoi, c'est pas possible.
Je suis allé vérifier les chiffres qui sont avancés ici. En effet, la construction de deux réacteurs de type EPR, acronyme de réacteur pressurisé européen à Flamanville, a été décidée en 2004. Et les travaux pour la construction des réacteurs proprement dit a commencé en 2007. À l'époque, l'espoir optimiste était une mise en service pour 2012. Rapidement, l'échéance a été décalée à 2018, puis 2021, 2022, et là, EDF, l'exploitant, espère finalement une mise en service à la fin 2023, soit 15 ans après le début des travaux, si tout va bien. Quant à la question des coûts, l'entreprise estime le coût de construction à 12,7 milliards, mais la Cour des comptes française estime, elle, que si l'on prend tout en compte dans les coûts du chantier, on arrive au chiffre de 19 milliards. Je propose que l'on s'arrête pour un premier point d'étape. Nous sommes ici partis de quelques avantages souvent pointés par les défenseurs du nucléaire. Premièrement, une énergie dense et pilotable. Une centrale nucléaire prend beaucoup moins de place que s'il faut installer une puissance équivalente en photovoltaïque ou en éolien. Voilà pour le côté dense. Le côté pilotable, lui, est en général opposé à l'aspect intermittent du renouvelable. Une centrale nucléaire, quand elle est en état de marche, elle peut tourner de jour comme de nuit, qu'il y ait ou non du vent ou du soleil, ce qui n'est pas le cas du renouvelable. Ceci dit, cette opposition est un peu à relativiser quand même, puisqu'une centrale nucléaire, ça ne s'allume pas ou ça ne s'éteint pas aussi facilement qu'une centrale gaz, par exemple. Et d'un autre côté, l'intermittence associée au renouvelable, elle est en train d'être progressivement amortie, d'une part par l'interconnexion des réseaux au niveau européen, par le développement de batteries et peut-être demain par le développement d'autres dispositifs comme les piles à hydrogène. Deuxième point mis en avant par Jean-Marc Jancovici, le fait qu'il faut beaucoup moins de métaux ou de béton pour construire des centrales nucléaires que pour leur équivalent renouvelable ou photovoltaïque. Ça, c'est factuel. Par contre, de là à dire que demain, on manquera à coup sûr de métal pour le renouvelable ou qu'il sera hors de prix, ça reste des conjectures, alors que l'alourdissement des coûts de la filière nucléaire, lui, il est déjà avéré. Je précise que je parle ici du nucléaire tel qu'on l'utilise aujourd'hui. On parle de deuxième et de troisième génération. La quatrième génération, celle qui imagine des réacteurs tout à fait différents, on y reviendra un petit peu plus tard dans le podcast. Venons-en maintenant aux principaux arguments de ceux qui veulent en finir avec le nucléaire. À commencer par le risque d'accident avec, dans les mémoires toujours, les images de Tchernobyl, de Fukushima ou encore de Three Mile Island aux États-Unis.
La déflagration soulève la dalle supérieure du réacteur d'un poids de 2000 tonnes. Le cœur est à l'air libre.
Regardez bien, voici le bâtiment du réacteur 4 et son toit éventré tel qu'on l'avait déjà vu sur une photo noir et blanc.
Des radiations se sont échappées des réacteurs.
Le plus inquiétant ce soir reste le nuage de particules radioactives. On le sait, il s'est déplacé tout d'abord vers la Scandinavie puis est en train de descendre vers le sud.
Nous vous demandons de rester confinés à la maison, au bureau, où que vous soyez. Je répète, restez à l'intérieur.
Et le risque d'accident ? Même avec une probabilité extrêmement faible, dans un territoire aussi densément peuplé que la Belgique, il inquiète particulièrement Luc Barbet.
Vous vous imaginez une catastrophe nucléaire à Doel ou à Tihange pour un pays comme la Belgique densément peuplé, je ne veux pas y penser, quoi. Si c'était à Doel, quoi, il y a combien de morts ? 5 000, 10 000, 100 000 ? Il y a 2 millions, 5 millions de Belges qui doivent fuir, donc ce serait la cause complète.
À cela, le secteur répond que les mesures de sécurité n'ont cessé d'être renforcées au fil des ans, et que ce qui s'est passé à Tchernobyl ou à Fukushima ne pourrait pas arriver chez nous. Alors j'ai eu envie d'y voir clair sur cet enjeu, et j'ai pris rendez-vous avec l'un des spécialistes du nucléaire chez nous en Belgique. Le professeur Thomas Pardoun, spécialiste des matériaux à l'UC Louvain. Il est aussi le président du comité scientifique du Centre de recherche nucléaire de Mol.
Merci de me recevoir à si brève échéance.
Et Thomas Pardoun tient d'abord à préciser ceci.
La fission nucléaire, c'est une technologie qui est éprouvée. Elle a maintenant 60 ans 70 ans qu'on la connaît, qu'on la maîtrise, il n'y a plus de surprise à attendre à ce niveau-là. On sait exactement ce qui se passe, on sait exactement les quantités d'énergie qui sont en jeu, on sait exactement comment se comporte l'uranium, comment se comportent les matériaux autour. Donc il n'y a pas, une physique non connue qui peut se passer. Par contre, ce qui s'est passé par exemple à Fukushima, effectivement, c'est une erreur d'ingénierie où on n'a pas anticipé le tsunami et on est allé mettre des groupes électriques à des endroits où il ne fallait pas les mettre, effectivement, dans une technologie aussi qui n'est pas la technologie qu'on a chez nous. Maintenant, force est de constater qu'on a 50 ans à peu près de recul sur la technologie des réacteurs à eau pressurisée. On va prendre par exemple en Europe ici, eh bien, il n'y a pas eu de morts liées à des accidents. Alors on va dire, oui, mais 50 ans, ça ne veut pas encore dire 100 ans, ça ne veut pas encore dire 200 ans. C'est quand même nettement mieux que d'être au bout de 5 ans. Hein. Donc après 50 ans, ben, on a ce retour d'expérience sur des centaines de réacteurs qui font qu'on peut avoir confiance sur les modèles qui ont été mis en place, sur les méthodes d'évaluation, sur les expériences qui sont faites. Est-ce que l'accident est impossible? Comme scientifique, je ne pourrais jamais dire qu'un accident est impossible. Ce serait malhonnête de ma part.
Autrement dit, pour Thomas Pardoun, le vrai risque n'est pas au niveau de la fission elle-même, mais au niveau des facteurs extérieurs, s'ils ne sont pas assez pensés, anticipés par les ingénieurs et les techniciens qui mettent en œuvre la réaction. Mais peut-on vraiment tout anticiper ?
Alors les facteurs extérieurs, ben on voit Zaporizhzhia pour le moment, on est en train de bombarder un réacteur nucléaire. Oui, effectivement, mais là on sort des formes de rationalité. Si effectivement on doit dimensionner le monde par rapport à la chute de la Lune sur la Terre ou sur le fait qu'on va lancer des bombes nucléaires,